choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
Bonjour à toutes et à tous.
Patrice et Jérôme qui sont avec vous aujourd'hui. Romain est en déplacement professionnel à Berlin, nous le saluons.
Nous le saluons.
Je vais commencer par vous lire l'éditorial de notre présidente Françoise Dumont qui titre son article « Adieu la réforme, bonjour la loi ». Après 4 mois de débats incessants sur la déchéance de nationalité, François Hollande a donc renoncé à convoquer le Congrès et à faire adopter sa réforme constitutionnelle. Le serment de Versailles, si cher au Premier ministre, ne sera pas tenu et c'est très bien ainsi. L'exécutif tente de faire porter à la droite la responsabilité de sa cuisante défaite et de fait, la volonté des sénateurs républicains de limiter la mesure aux seuls binationaux a abouti à 2 versions inconciliables du projet de réforme. Pour tous ceux qui, comme nous, ont combattu le texte dans son ensemble, article 1 et article 2, c'est une satisfaction de voir que la mobilisation n'aura pas été vaine. Pourtant, l'état d'urgence perdure. Peut-être même sera-t-il prorogé une nouvelle fois à la fin du mois de mai, et la loi sur la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a été votée dans une indifférence quasi générale, alors même qu'elle renforce les pouvoirs des autorités administratives et qu'elle contient des dispositions directement inspirées de l'état d'urgence. Cette forme d'acquiescement de l'opinion publique, le vote massif des parlementaires en faveur de la loi montre à quel point beaucoup de nos concitoyens sont prêts à en rabattre sur les libertés, et notamment les libertés individuelles, au nom d'une hypothétique sécurité. La dérive sécuritaire constatée en France n'aura pourtant pas eu lieu en Belgique, et il faut saluer les déclarations du roi des Belges et du Premier ministre belge après les attentats qui ont ensanglanté Bruxelles. L'un et l'autre ont appelé le peuple au calme et à la solidarité avec une dignité qui mérite d'être soulignée et sans faire appel à un quelconque régime d'exception. Nous avons encore besoin de convaincre, au-delà même du cercle de ceux qui nous sont déjà acquis, parce que la bataille des idées n'est pas gagnée, loin de là. Et cette question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme ne manquera pas de peser dans les futurs débats de la campagne présidentielle. D'autant plus que les surenchères ont déjà commencé. En témoignent les propositions d'amendement à la loi Urvoas pour créer une vraie perpétuité, amendement accepté par le garde des Sceaux lui-même au mépris de tout ce qui caractérise notre philosophie pénale depuis des siècles. Les propos d'un Premier ministre affirmant que pour lui la campagne devra se centrer sur l'identité culturelle et politique du pays ont aussi de quoi inquiéter. Encore un petit effort, monsieur Valls, et l'on pourra réouvrir le débat sur l'identité nationale. Tout cela matiné de quelques onces d'une laïcité prétendument républicaine, mais réellement intolérante. L'actualité de ce mois a également été marquée par le scandale des Panama Papers. Peu de gens en ce pays croyaient à une éventuelle éradication des paradis fiscaux. L'affaire Cahuzac nous avait rappelé à la réalité. Mais l'ampleur des fraudes a quand même surpris. Face à de telles révélations, il apparaît évident qu'il faut protéger tous ceux qui peuvent contribuer à dénoncer des pratiques qui spolient les États et, par la même occasion, les citoyens de ces États. Ce n'est pourtant pas le chemin pris par le Parlement européen. Celui-ci vient d'adopter une directive sur le secret des affaires, texte qui permettra aux entreprises de poursuivre tous ceux, journalistes, syndicalistes, lanceurs d'alerte ou salariés, qui utiliseraient des informations acquises sur le lieu de travail pour révéler un secret d'affaires. La simple perspective de poursuite sera pour tous une intimidation permanente. Même si un certain nombre d'eurodéputés ont voté contre cette directive, la majorité d'entre eux n'ont manifestement pas compris les enjeux et les dangers d'un texte qui met en cause le fonctionnement démocratique de l'Europe et la capacité des institutions à défendre l'intérêt général.
Et oui, et on peut, Françoise Dumont met l'accent sur l'indifférence de nos concitoyens. On peut espérer que sur cette question, ils vont rester quand même moins indifférents, puisque ça va bien sûr déterminer les prérogatives de l'État, ses moyens financiers, moyens d'intervenir dans la vie publique, dans la vie sociale, et donc d'améliorer le sort des citoyens. Et sur cette question donc des paradis fiscaux, récemment un collectif de plus de 300 économistes, notamment dans le célèbre français Thomas Piketty, et également le prix Nobel Angus Deaton, ont décidé donc d'interpeller les chefs d'État et de gouvernement du monde entier qui se réunissent à Londres donc le 12 mai pour un sommet anticorruption. Donc je vais vous lire ce communiqué, cette prise de position de ces économistes intitulée « Les États doivent mettre fin à l'ère des paradis fiscaux » qui a été publiée dans le journal Le Monde du 11 mai 2016. Donc nous demandons aux chefs de gouvernement de saisir l'opportunité du sommet anticorruption qui se tient jeudi 12 mai à Londres pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme à l'ère des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux n'apportent aucune plus-value en termes de richesse globale ou de bien-être. Ils ne sont d'aucune utilité économique. Alors que ces juridictions bénéficient sans aucun doute à de très riches individus et à des multinationales, ces bénéfices se font au détriment des autres, aggravant par conséquent les inégalités. Comme les Panama Papers et d'autres scandales l'ont récemment révélé, l'opacité sur laquelle reposent les paradis fiscaux alimente la corruption et sape les capacités des États à collecter leur juste part d'impôts. Si tous les États sont victimes de l'évasion fiscale, les pays les plus pauvres sont en proportion les plus touchés par ces pratiques dommageables, avec une perte annuelle d'au moins 170 milliards de dollars de recettes fiscales. Des territoires permettant de cacher des avoirs à travers des sociétés écrans ou encourageant chez eux l'enregistrement de bénéfices par des entreprises dont les activités réelles se situent ailleurs constituent des distorsions au fonctionnement global de l'économie, soulignent ces économistes. Et donc, pour lever le voile sur l'opacité qui règne dans les paradis fiscaux, nous avons besoin de nouvelles régulations internationales. S'attaquer aux paradis fiscaux ne sera pas aisé. Les intérêts qui profitent du statu quo sont puissants. Mais, et là curieusement, ces économistes citent Adam Smith. Adam Smith l'a bien dit, les riches doivent contribuer aux dépenses publiques, pas seulement en fonction de leurs revenus, mais dans une proportion supérieure. Une citation qui, prise sous n'importe quel angle, montre qu'aucune justification économique ne permet de tolérer que les paradis fiscaux perdurent. Donc une mobilisation qui est bienvenue à notre époque, mais dans un contexte répressif malheureusement aux dépens des lanceurs d'alerte. Françoise Dumont y faisait allusion et malheureusement les lanceurs d'alerte ont été récemment visés et ciblés et menacés. Voilà, je vais vous lire l'éditorial du Monde du 12 mai 2016 intitulé fort justement « Lanceurs d'alerte, où est la justice ?» Est-ce de la schizophrénie, du cynisme à l'état pur, ou un dérisoire combat d'arrière-garde? On ne se permettrait pas de mettre en cause l'indépendance de la justice luxembourgeoise. Mais le procès organisé contre les deux lanceurs d'alerte et le journaliste à l'origine du scandale des LuxLeaks incite à répondre les trois à la fois. Pendant les trois semaines de débat de ce procès, deux ex-employés français du cabinet PwC, Antoine Deltour et Raphaël Allais ont été mis en accusation pour vol et violation du secret des affaires, après avoir fait fuiter des dizaines de documents fiscaux à propos d'arrangements conclus entre des multinationales et le fisc luxembourgeois. Le journaliste Édouard Perrin a lui été accusé de complicité pour avoir rendu public ces documents dans l'émission Cache Investigation sur France 2. Avant qu'il ne soit relayé par de très nombreux médias, par l'intermédiaire du consortium international des journalistes d'investigation dont Le Monde fait partie. Et c'est ce consortium qui a révélé les Panama Papers. Mardi 10 mai, le parquet luxembourgeois a requis 18 mois de prison avec sursis contre les deux lanceurs d'alerte et une amende pour le journaliste. Le jugement sera rendu dans quelques semaines, mais on est en droit dès à présent de pointer l'absurdité de la situation. Personne ne conteste que cette affaire LuxLeaks a permis de révéler l'ampleur de la pratique par les autorités luxembourgeoises des rescrits fiscaux qui permettent à des sociétés multinationales d'échapper à l'impôt en totalité ou en grande partie. Selon les documents divulgués, ces mécanismes de contournement du fisc ne relevaient pas de l'artisanat, mais de l'industrie. Ils concernaient 350 firmes multinationales qui ont ainsi économisé des milliards de dollars d'impôts. La meilleure preuve du sérieux de cette affaire et du discrédit qu'elle a fait porter sur les pratiques du Grand-Duché, autant que sur la troublante bienveillance de ses voisins, a été la réaction de la Commission européenne. Celle-ci s'est empressée de proposer une adaptation des directives européennes afin d'organiser notamment un échange automatique des données fiscales entre les États européens. Et l'on ne pouvait trouver meilleur avocat de ces mesures salutaires que le président de la Commission, puisque Jean-Claude Juncker a été Premier ministre du Luxembourg entre 1995 et 2014. Sans les lanceurs d'alerte, cela n'aurait pas été possible. Il n'empêche qu'il risque d'être condamné. Cette situation est d'autant plus ubuesque, ou scandaleuse, qu'une autre affaire similaire vient de démontrer le rôle déterminant de tels lanceurs d'alerte dans les aspects les plus opaques du monde de la finance internationale. Il s'agit de l'enquête des Panama Papers, dont nous avons largement rendu compte dans ces colonnes. Ont été mises à jour à cette occasion les quelques 200 000 sociétés écrans créées ou administrées dans 21 paradis fiscaux, pour des clients soucieux de discrétion. Devant l'ampleur du scandale, le Panama vient de s'engager à respecter le processus de transparence fiscale coordonné par l'OCDE. À compter de 2018, il échangera ses informations fiscales de manière automatique avec les États qui le souhaiteront. Là encore, rien n'aurait été possible sans les lanceurs d'alerte. Il faudrait donc choisir. Ceux-ci sont-ils des voleurs d'informations ou les auxiliaires atypiques, mais salutaires, d'une véritable justice ? Le choix est clair.
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, notre ennemi, c'est la finance.
C'est la finance, la grande finance internationale qui nous échappe.
Françoise Dumont enchaîne sur la question de la démocratie représentative et de ses limites à l'échelon européen, mais aussi national, qui est aujourd'hui au cœur des débats qui se mènent un peu partout en France avec les initiatives Nuit Debout, au cours desquelles la parole de la LDH trouve sa place. Difficile de dire aujourd'hui ce qu'il en ressortira, une chose est néanmoins certaine, le développement de ces initiatives nées du mouvement social contre le projet de réforme El Khomri doit pour le moins être lu comme un symptôme, comme la volonté de beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes de faire de la politique autrement, de manière plus horizontale, avec des pratiques renouvelées. C'est un message qui nous interpelle tous et toutes.
Oui, moi-même, je suis d'autant plus interpellé que je participe à la Nuit Debout Montpellier-Rennes, qui réunit donc entre 200 et 500 personnes.
Réellement
réellement, oui, environ. Ah, ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes des vacances où il y a eu un flottement, pouf. Oui. On est tombé à... Mais il y a pas mal de gens qui tournent autour de la Nuit Debout, qui viennent poser des questions, qui repartent, qui restent pas. Ça commence à 18h le samedi, et ça peut se terminer jusqu'à 1h du matin. Donc ça fait un sacré turnover. Il y a une assemblée générale donc, qui fait un peu le point donc, sur la lutte contre la loi El Khomri et qui également qui fait le point sur la convergence des luttes sociales. On évoque ici notamment le problème Santoine-Illois, les femmes du Petit Bar aussi, et la question des salariés de chez Renault à Tournoisy qui se mobilisent, les intermittents du spectacle qui se sont mobilisés ardemment et qui ont obtenu pas mal de choses. Donc on crée aussi des commissions, notamment j'anime une commission intitulée « Citoyenneté et démocratie » où on débat des modalités de la démocratie. Quelle alternative à cette démocratie représentative qui ne permet pas vraiment aux citoyens de contrôler l'exercice du pouvoir ? Moi je plaide, certains plaident pour une démocratie directe, moi je me veux plus réaliste, je pense qu'une démocratie participative serait du plus grand bien, ferait le plus grand bien.
Ah, tout à fait. Je vais d'ailleurs aller faire un tour, j'ai bien envie.
C'est une très bonne idée.
Dans l'actualité, ben justement, il y a eu un communiqué de la Ligue des droits de l'homme, communiqué de la Ligue à l'échelon national, halte aux violences policières. La LDH dénonce avec force les violences policières dont certains jeunes manifestants ont été victimes ces derniers jours, un peu partout en France, lors des manifestations contre la loi El Khomri. Il est légitime que la jeunesse manifeste son inquiétude face à un projet qui met en cause son avenir. Rien ne justifie que la violence s'exerce contre les manifestants. Et il appartient au gouvernement de faire en sorte que les jeunes et les salariés de ce pays puissent manifester dans de bonnes conditions. Ironie du sort, ces dérapages policiers qui signent l'arrêt de mort du code de déontologie promu par Manuel Valls ont lieu à un moment où le Sénat a voté une loi qui donne à la police des pouvoirs accrus. La LDH demande que cesse cette escalade de la tension et les brutalités contre les manifestants. Elle attend que toute la lumière soit faite sur ces violences et dans le respect de l'état de droit.
Et oui, on s'interroge aussi parfois sur les violences avec les casseurs, mais il y a plusieurs témoignages montrent qu'on a tendance à laisser faire les casseurs. On les repère, mais on les laisse casser, et les caméras peuvent ainsi filmer et montrer la dégradation, et après les forces de l'ordre sont confrontées à une situation difficile.
Autrement dit, il y aura une petite manipulation, une volonté de faire peur.
Pour discréditer le mouvement Nuit Debout.
Un peu de musique.
Qui adoucit les mœurs.
C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Et oui, une chanson pour illustrer le drame, la tragédie des migrants hein, qui quittent leur pays dans des conditions extrêmement difficiles et qui se retrouvent dans une situation encore difficile en Europe. Et situation difficile aussi pour s'agissant du logement, avec un communiqué de la Ligue des droits de l'homme donc sur cette question après la fin de la trêve hivernale. Donc communiqué intitulé « Se loger est pour chacun une nécessité vitale ». Spéculer sur cette nécessité donc pour en faire une marchandise rentable est particulièrement scandaleux. Avec la fin donc de la trêve hivernale, ça a été la reprise des expulsions locatives qui frappent les locataires du parc social comme du parc privé en impayés de loyers. Ces procédures d'expulsion donc sont en constante augmentation d'une année sur l'autre, proche des 130 000 décisions de justice, dont au moins 12 000 d'entre elles seront exécutées avec le concours des forces de l'ordre. Ces expulsions locatives, sans proposition de relogement, auxquelles s'ajoutent les évacuations de terrains, squats ou bidonvilles, sans solution digne quand il ne reste que la rue comme refuge, vont venir gonfler la demande d'hébergement d'urgence gérée par le 115, qui se traduit par 40 000 nuitées en hôtel par jour, en hausse de 23% en 2015, après des hausses de 27% en 2013 et 2014. Chaque mois, ce sont aussi des centaines de femmes, parfois avec enfants, qui appellent en vain le 115. Alors que les salaires stagnent, que le chômage perdure, les loyers privés, eux, ont augmenté de 57% en 15 ans, entraînés par la pénurie de logements, dont l'offre est dramatiquement insuffisante dans les zones tendues comme la région Île-de-France. Cette tension sur les loyers et les charges locatives conduit à un taux d'effort excessif. Ainsi, pour 3 millions de ménages, les charges atteignent 35% de leurs ressources et leur laissent un reste à vivre inférieur à 650 euros. Cette situation est due à une politique du logement orientée par les besoins du marché immobilier, à qui on confie le soin de loger les Français et non par la demande sociale, que ce même marché est incapable de satisfaire. On constate en effet le désengagement de l'État dans l'aide à la construction de logements sociaux. À peine plus de 700 logements très sociaux ont été programmés en 2015, alors que 3000 étaient attendus. L'acharnement soutenu du gouvernement à vouloir faire des économies sur les aides au logement, dont ont besoin les ménages pauvres et modestes. Le soutien sans faille à l'activité du marché immobilier par des dépenses nouvelles, comme le dispositif de défiscalisation Pinel, qui profite principalement aux classes moyennes supérieures, voire aux ménages les plus aisés, ou encore les avantages fiscaux significatifs accordés aux banques et aux compagnies d'assurance dans l'espoir de les inciter à investir dans la pierre. Ces dépenses ont comme justificatif de proposer à la classe moyenne, qui n'a pas les moyens d'accéder à la propriété, des loyers supérieurs aux loyers PLS des HLM, mais inférieurs à ceux du marché. Cet espoir de relance de la construction par le capital privé, qui coûte cher aux contribuables, 18 milliards d'euros, est hélas toujours déçu, quand on voit que la construction stagne pour atteindre péniblement 351 000 logements mis en chantier en 2015, sans réel ciblage géographique ou social de la production. La Ligue des droits de l'homme dénonce cette politique qui accroît les inégalités, exclut de l'accès au logement des millions de personnes à cause du manque de construction et des prix trop élevés à l'achat comme à la location. La LDH dénonce l'absence de volonté politique pour rendre effectif pour tous le droit au logement. Paris, le 29 mars 2016.
Belle action. Autre action de la Ligue ce mois-ci, le droit à l'avortement, un combat toujours d'actualité. En Pologne, le nouveau projet de loi pour interdire le droit à l'avortement des femmes polonaises inquiète aujourd'hui tous les citoyens et citoyennes européens, défenseurs des droits et des libertés. Le droit à l'avortement est une liberté fondamentale qui fait partie du droit à la santé sexuelle et reproductive, inscrit dans les textes internationaux. L'accès à l'avortement est un droit des femmes à disposer de leur corps et à choisir. Refuser ce droit aux femmes polonaises, c'est nier un problème de santé publique. C'est également refuser l'égalité des sexes, l'émancipation et l'autonomisation des femmes, facteurs du progrès de la société polonaise tout entière. Déjà identifiée dans un pays où le droit à l'avortement était restreint, la Pologne connaît une dérive autoritaire suite à l'arrivée au pouvoir du président Andrzej Duda et de son nouveau gouvernement en octobre 2015. Le nouveau projet de loi supprime le droit à l'avortement, même en cas de viol, et le meurtre fœtal entre dans le code pénal. La Ligue des droits de l'homme est aux côtés de toutes celles et tous ceux qui en Pologne se mobilisent pour la sauvegarde de ce droit. Avec de nombreuses autres organisations, elle appelle à se mobiliser pour que cette liberté fondamentale soit reconnue et respectée.
Très bien, absolument. Il y a une montée du populisme d'extrême droite un peu partout dans le monde, et notamment en Europe.
Dans les pays d'Europe de l'Est.
Oui, tout à fait. Donc nous devons rester vigilants là-dessus.
Autre communiqué,
c'est sur l'Algérie. Tout se dégrade un peu partout, malheureusement. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Communiqué commun, donc Euromed, droit, LDH. Donc c'était en les 9 et 10 avril dernier, le Premier ministre français, Manuel Valls, s'est rendu donc en Algérie pour prendre part au 3e comité interministériel de haut niveau entre l'Algérie et la France. Et cette rencontre, qui vise à stimuler le partenariat entre les deux pays, devait également aborder la coopération antiterroriste et la sécurité dans la région, avec les dossiers maliens et libyens. Alors certes, si les questions sécuritaires ont leur importance, il ne peut y avoir de compromis avec les droits humains. Au contraire, les solutions et les politiques les plus efficaces et durables sont celles résolument fondées sur l'état de droit et ancrées dans le respect des droits humains. C'est pourquoi, à l'occasion de cette visite, Euromed Droit et ses membres ont adressé une lettre à M. le Premier ministre Manuel Valls, dans laquelle nous l'interpellons pour que la question des droits humains et des libertés fondamentales, y compris les libertés syndicales, soit au cœur de l'agenda avec ses homologues algériens. En début d'année, en effet, nous interpellions déjà les autorités européennes et l'ensemble des États membres sur le grave harcèlement subi par les défenseurs des droits humains en Algérie, lequel s'accompagne d'un profond affaiblissement de l'état de droit dans le pays. Ces dernières semaines encore, de nombreux militants des droits humains et syndicats autonomes en Algérie ont subi des entraves à leurs activités, et ce malgré les recommandations émises par des instances internationales telles que le Parlement européen et l'OIT. Ainsi, les 21 et 22 mars, plus d'une centaine d'enseignants ont été arrêtés lors de manifestations pacifiques dénonçant leurs contrats précaires. Le 6 février, c'est un important déploiement policier qui a empêché une réunion sur le thème des politiques d'austérité dans un local privé, la maison des syndicats d'Alger. 6 militants ont été arrêtés. Sur fond de crise sociale et économique, tout est prétexte en Algérie à l'étouffement des voix dissidentes. On assiste à une criminalisation de la contestation pacifique et à la suspension des libertés de réunion et d'association, déjà sérieusement entravées par la loi. Les libertés syndicales sont constamment bafouées et des syndicalistes autonomes harcelés depuis des années. Plusieurs d'entre eux ont été licenciés ou suspendus de leur poste dans la fonction publique. Malgré les recommandations de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ils n'ont jamais été réintégrés. En accord avec les recommandations du Parlement européen du 30 avril 2015 sur l'Algérie et de la Commission des normes de l'OIT adressée à l'Algérie en juin 2015, Euromed Droit et ses membres exhortent M. Manuel Valls à demander à ses homologues algériens la libération des militants arrêtés, la fin du harcèlement judiciaire et policier des syndicalistes autonomes et des défenseurs des droits humains et la garantie des libertés d'association et de réunion et des libertés syndicales en conformité avec la Constitution algérienne et les conventions internationales ratifié par l'Algérie.
Et je marche dans la rue un soir, pas d'autre. Seul à seul, je comptais mes bas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir un écho à jouer. Les deux chasses de temps qui pressaient la caravane passe. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mes au capot sonnèrent, je les ai entreaperçus. Née au vent, elle déboulait, a pris la battue. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchées. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Dans le brun et lors de leurs yeux tout se bouleversait. Je riais aux éclats en sanglant mon affolement. La rue n'aura jamais fini de me passionner. Des trottoirs, des tapis rouges, des ballons à nos pieds.
On se demande où elles sont passées, ces foutues gazelles. C'était les Dix Merciers des Clous, une chanson des années 80 qui visait à lutter contre l'apartheid. Sur le clip qui a été diffusé à l'époque, on voyait les Dix Merciers, une femme blanche qui dansait avec des noirs, et le clip et la chanson étaient interdites dans l'Afrique du Sud de la ségrégation raciale. Et donc je passe la parole maintenant à mon ligueur.
Sur un tout autre sujet, nous célébrons cette année un anniversaire, ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'est l'anniversaire du Front Populaire et d'un droit qui a été conquis et qui est le droit au repos et au loisir. C'est l'anniversaire des congés payés. Le 3 mai 1900, j'emprunte ça à un article à la revue du Secours Populaire. Le 3 mai 1936, le Front Populaire remporte les élections législatives. L'espérance suscitée chez les ouvriers est immense dans une France où le chômage et la misère s'étendent. Des mouvements de grève avec des occupations d'usines gagnent la France et font des congés payés une revendication de premier ordre. Dès le 5 juin, le nouveau président du Conseil, Léon Blum, annonce le dépôt immédiat d'un projet de loi sur le sujet, affirmant que tous les travailleurs sont concernés, que les ouvriers connaîtront dans leur labeur journalier une trêve d'au moins 2 semaines et qu'ils pourront se consacrer librement au repos et aux satisfactions de la vie familiale et sociale, quel que soit leur sexe et leur âge, la nature du travail et la branche d'activité. Déposé le 9 juin, le projet est voté le 11 par la Chambre des députés à l'unanimité. Le Sénat suivra avec seulement 2 voix hostiles. Jusqu'alors, les usines fermaient 15 jours en août, quand les propriétaires et les contremaîtres partaient sur la côte normande ou sur la côte d'Azur. Les 2 semaines de salaire perdus imposaient aux familles d'ouvriers de se serrer encore plus la ceinture. Les congés payés avaient pourtant fait leur apparition avec un décret impérial du 9 novembre 1853 concernant les fonctionnaires, 2 semaines. Au début du XXe siècle, les salariés du métro parisien, du gaz, de l'électricité, les employés du bureau et du commerce obtiennent 1 à 3 semaines de repos. Et seul 1% des ouvriers a alors droit à des vacances rémunérées. Alors que le spectre de la guerre plane en Europe en juillet-août 1936, 560 000 personnes prennent d'assaut les gares parisiennes grâce au billet populaire de congé annuel à tarif réduit créé par Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs. Certes, tous ne partent pas. Ceux qui restent vont pique-niquer quotidiennement dans les bois entourant Paris, souligne Daniel Tartakovsky, professeur d'histoire à l'université de Paris 8. Tous les témoignages d'ouvriers insistent sur cette sensation nouvelle. Le temps leur appartenait. "80 ans après le vote des congés payés, un enfant sur trois ne part pas en vacances et 40% des familles en sont exclues. Une réalité qui s'explique notamment par la précarité financière de nombreux foyers. Le droit aux vacances reste à conquérir en raison de la fragilisation du salariat et de la montée en puissance du chômage de longue durée. Plus que jamais, un élan de générosité populaire est nécessaire pour faire des vacances un droit effectif pour tous." C'était l'hymne du Front Populaire, en quelque sorte, ce fameux refrain « Ma blonde, entends-tu dans la vie ?»« Allons au devant de la vie », c'est le titre exact. Ouais. Et avoir le sourire de tous les gens dans le studio, ça évoque quand même une période qui a été formidable.
Tout à fait.
Et on va se laisser, on va conclure là-dessus, se donner rendez-vous la prochaine fois. Peut-être reparlerons-nous du Front Populaire, dont c'est le
70, 80. L'anniversaire, en tout cas.
C'est un anniversaire tout rond cette année. 1936-2006.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage.